CFM.
Normidie-Pyrénées.
Normidie-Pyrénées.
L'esprit rock.
Vous n'avez pas pu passer à côté, hein, de toute manière. La sortie du dernier Star Wars, c'était aujourd'hui. Ils y étaient. Jean, salut Jean.
Salut.
Et il y avait Emmerich qui y était aussi. Salut Emmerich.
Salut Rémi.
Donc vous étiez en reportage aujourd'hui, on entendra ça tout à l'heure. Vous nous raconterez, vous nous direz ce que vous avez pensé de ce film. Et grâce à vous, on en saura un peu plus aussi sur les spectateurs qui sont allés voir ce film ce matin dès 10h quand même.
10h01 précisément.
Cinéma multiplex de Montauban. Salut Florian.
Salut Rémi.
Comment ça va?
Ça va bien.
Eh ben, on s'attendait pas à te voir aujourd'hui.
Eh oui. Comme quoi, je suis insaisissable.
Insaisissable. Qu'est-ce que tu es allé voir toi au cinéma?
Rien du tout. Ah bah, non, mais, je sais pas. Ça m'ennuie en ce moment. Je sais pas. Je suis peut-être une petite déprime.
C'est ça. Ouais.
Hivernale. Non, mais du coup, j'ai fait la deuxième partie de ma chronique.
Ah oui, sur les films de l'année. On s'était arrêté à juin, mercredi dernier. Donc, les films et les événements accolés de juin à décembre.
Exactement.
Manu, elle, est allée voir 4 films. Matt est allée voir Transylvanie. Jeff est allé voir Le Voyage d'Arlo. Louloute, un bon film de gangster. Rose Lavie est allé voir Le Fils de Saul. Rose Lavie, c'est une nouvelle personne qui rejoint le club très très ouvert des critiques cinéma de CFM. Elle habite Montauban, elle ou Hildeburg, je ne sais pas. Et puis, le grand retour de CY312. Aujourd'hui, je vous promets d'arriver au bout de sa chronique parce que CY312, qui est de Rodez, a fait un effort et il a un petit peu réduit la longueur de sa chronique. On commence par qui?
Par Manu, qui est allé voir 1+1 du pur et dur Lelouch pour cette invitation au voyage teinté de spiritualité et d'humanité. Jean Dujardin est brillant et manie à merveille l'humour, la dérision et l'improvisation. Belle histoire d'amour, beau voyage initiatique, on souhaiterait qu'il ne s'arrête jamais. Ben encore une note maximale pour Manu, 5/5, c'était le film 1+1.
On se demande parfois où va Manu quand elle va voir Belle et Sébastien. Manu, il faut décrocher aussi des fois. Belle et Sébastien, moi je suis resté scotché à l'affiche et puis je me suis dit non, Rémi, tu peux pas. Il y a des limites à tout quoi. Ouais, ça, t'attends que ça passe sur M6, je sais pas.
Le pire, c'est qu'ils ont annoncé une adaptation de Heidi aussi.
Ouais, non mais Heidi, bon, Heidi, c'est une fille quoi.
Mais non.
Mais Belle et Sébastien quoi.
Non.
Le gros chien.
Mais non.
Le petit vieux.
Non plus.
Non. D'ailleurs, je sais pas si c'est le petit vieux, si c'est dans Heidi ou dans Belle et Sébastien.
J'en sais rien, je m'en fous. C'est comme Jem et les hologrammes, quoi.
Je les mélange un peu. Non, mais Belle et Sébastien. Bon, c'est peut-être typiquement féminin, finalement.
Non, mais Manu, elle prend tout. Elle est gourmande.
Oui, mais elle s'en mord les doigts, parfois, hein, parce que... Elle l'a noté 2, celui-ci. Ah. J'avais bien apprécié le premier épisode, mais cette fable destinée à un jeune public reste très convenue. Tout y est prévisible. La montagne, un peu trop sublimée, style nature et découverte. La scène où les animaux traversent la rivière est splendide et reste l'unique surprise du film. Voilà, 2/5. Et donc l'unique surprise du film qu'elle nous spolie quand même au passage. Oui. Merci Manu.
Bon, ouais, des animaux qui traversent une rivière, c'est pas le spoil de l'année. Quoi.
Ben ouais, mais s'il y a que ça de palpitant dans Belle et Sébastien.
Après, ça dépend quel animal. Si c'est des chevreaux unijambistes, par exemple, c'est un effort.
Ou des chauves-souris à poils longs.
Voilà.
Hein?
Jeff est allé voir Le Voyage d'Arlo. Après Vice et Versa, les studios Pixar nous offrent une animation et d'un réalisme à couper le souffle, à voir absolument pour les petits comme pour les grands, un des meilleurs films de l'année pour Jeff. Et donc, il y a mis absolument pas la note maximale, mais 4/5. Donc, qu'est-ce qu'il lui faut pour lui mettre 5? Jeff, on te pose la question.
Attention, on va descendre dans les profondeurs abyssales de la note pourrie que l'on peut poster sur cfmradio.fr.
Vas-y, on t'écoute.
C'est-à-dire le 1, parce qu'il n'y a pas la possibilité de mettre 0. Donc, CY312 a mis 1 à 1+1. Antoine ressemble au héros des films dont il compose la musique. Il a du charme, du succès et traverse la vie avec autant d'humour que de légèreté. Lorsqu'il parle lorsqu'il part en Inde travailler sur une version très originale de Roméo et Juliette, il rencontre Anna, une femme qui ne lui ressemble en rien, mais qui l'attire plus que tout. Ensemble, ils vont vivre une incroyable aventure. Et voilà, Lelouch revient à son sujet de prédilection, la belle et grande histoire d'amour avec toujours le romantisme en prime. Cette fois, le réalisateur a voulu y ajouter une dose d'exotisme et une pincée de mysticisme. Seulement, Lelouch signe un film sans originalité, sans surprise, très inégal, nous dit CY312. Malgré une ou deux scènes qui frôlent la grâce, ce film est bancal. Niveau casting, hormis Dujardin qui apporte un peu de fraîcheur avec son côté naturel et sa bonhomie, il fait malheureusement face à une actrice sans talent. Elsa Silberstein, pas aidée, certes, de devoir habiter un personnage ennuyeux, mais cela n'explique en rien, n'explique qu'en partie, sa difficulté manifeste à jouer des expressions. Christophe Lambert ne fait pas mieux en livrant une prestation triste, vide, monocorde et presque gênante, tant l'individu semble physiquement malade. CY312 poursuit sa longue chronique en disant « L'intrigue est quelconque, aucune passion, aucun intérêt même, on se désintéresse finalement du sort de cette romance floue avec des dialogues vides. Le personnage de Silberstein dévalorise la religion hindouiste tant il est caricatural. Le paysage de l'Inde et Dujardin ne suffisent pas à sauver ce film, très ennuyeux à oublier. »
Ouais. Mais ça vaut un.
Bah un pour
oui, parce
CY
qu'il pouvait pas mettre
non ouais. Mais il a peut-être mis un à cause des deux passages qu'il a pas spoilé.
Ouais.
Et où il dit il y a de la grâce. C'est possible. Hein.
Bon bah bonne nouvelle, Christophe Lambert est toujours en vie. Ça fait plaisir d'apprendre.
Ouais.
C'est le seul acteur au monde.
Il est toujours très mauvais acteur.
Et
mais
il change pas. Voilà. C'est ce que j'ai.
C'est le seul acteur qui a un rire qui fait peur aux chiens. Voilà. Je tiens à le préciser.
Highlander quoi.
C'est important.
Bon, tant qu'il fait pas peur à Sophie Marceau, c'est déjà ça pour lui.
Ah ben ils sont au moins du même niveau de jeu.
Oui.
C'est ça.
Oh.
Sophie, si tu nous entends.
Ah bah si.
Oh, Sophie Marceau, comme.
Sophie Marceau, elle joue comme.
Le charisme du.
Elle joue comme Christophe Lambert.
Oui.
Oui, mais elle est mignonne.
C'est ça. Ah, la voilà, tout s'explique. Enfin, Christophe Lambert, c'est pas un tonneau, hein.
Maintenant, oui, mais pour nous aussi. Ah. C'est bon.
Ah, ça.
Eh oui,
ça,
chacun ses goûts, hein.
J'enchaîne avec MatMat parce que je vais te laisser te débrouiller avec la critique de Rose Lavie que j'ai absolument pas compris. Loulout, elle a pas mis le film, donc je passe. MatMat est allé voir Hôtel Transylvanie 2. Après un premier opus à mourir de rire, on pouvait avoir des craintes pour la suite. Eh ben, il en est rien. Les personnages sont toujours aussi attachants. Un Dracula gentil et amusant à voir sans attendre. Note maximale donc pour Hôtel Transylvanie 2. De MatMat, 5 sur 5.
Rose Lavie, moi je vais te dire ce qu'elle a fait, Rose Lavie.
Elle a fait un copier-coller, elle a enlevé des mots.
Même pas. Comme elle s'est dit, il va pourrir, il va googliser ma critique pour voir si elle se trouve pas, tu vois, si j'ai pas fait un copier-coller.
Du net.
Ouais. Elle a googlisé une critique russe. Et grâce à Google Translate, je vous lis la critique de Rose Lavie.
Si quelqu'un comprend, bravo.
C'est ça.
Et donc le défi, effectivement, c'est de comprendre.
Allez,
d'accord.
Accrochons-nous.
Le fils de Saul. Il y a dans cette traversée avec le père le point de la rupture dès le début du film, quand Saul rompe avec le réel du camp, mettant en place un délire. C'est son fils et il aura sépulture, signifiant qu'au travers de ce délire, il y a rétablissement de la filiation. Le nom du père, le nom du fils, est interroge sur quel camp attribuer le délire.
C'est de la poésie abstraite.
Ah ben, Rose Lavie. Tu sais que 5 pour ce film, mais c'est pas facile, hein.
Bah non, on dirait du Yoda, c'est marrant.
On dirait du Yoda.
Moi, ouais. Je dis 10 sur 5 pour le texte.
Ouais.
Tu sais que Le Fils de Saul, c'est un film très triste. C'est le fameux Saul pleureur.
Oh là là.
Oh.
Non, mais excusez-moi, moi, j'essaie de faire des blagues intelligentes. Après, voilà. Si c'est pas la bonne émission, vous me le dites.
C'est pas la bonne émission. Rose Lavie, si vous nous entendez, vous pouvez nous appeler pour essayer de nous expliquer ce qui vous est arrivé. Est-ce que vous en aviez trop pris? Est-ce que vous aviez pas assez, justement? Vous y en avez plus, hein?
Ouais, dites-nous quel est votre dealer, surtout, parce que ça m'intéresse.
Faut arrêter de mettre de l'origan dans sa pignée.
Madame Bovary?
Oui, vas-y.
C'est Manu qui est allé voir Madame Bovary. Belle prestation de Mia Wasikowska.
Bien cette, prononcé.
Pour cette description d'une vie morne et étouffée par les conventions, c'est soigné, certes élégant, mais peu original. Le drame basé sur l'ennui et la mélancolie nous plonge dans une torpeur qui finit par nous faire sombrer dans le sommeil. 2 sur 5 pour Madame Bovary.
Louloute est allé voir un film. Et donc là, il faut deviner ce que c'est.
Vas-y, je suis chaud.
Vous êtes prêts, hein?
Allez, vas-y.
Un bon film de gangster comme on aime. Le réalisateur nous plonge dans les années 70. On dirait Julien Lepers.
Ah, c'est le truc avec Johnny Depp.
Il nous fait découvrir l'ascension d'un petit caïd de quartier devenu grand mafieux sans foi ni loi jusqu'à sa chute. Le tout inspiré d'une histoire vraie. Le réalisateur recrée parfaitement l'ambiance de l'époque dans le moindre détail. Un film qui vaut le déplacement. 4 sur 5 pour...
Strictly Criminal.
Bravo! Louloute, il faut mettre le titre, hein? Voilà.
Ah, parce que moi, j'ai cru que c'était Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, mais il passe pas. Ça fait 30 ans qu'il n'est pas passé.
Non, pour moi, j'étais parti sur Scarface, hein.
Oui, voilà.
Un film de gangster comme on est.
Un petit Scorsese.
You're talking to me.
Fuck my wife.
Est-ce qu'on est arrivé au bout de
The Lobster? Voilà.
Vous rappelez de The Lobster?
Évidemment.
Ah oui.
Hein? Tu l'avais aimé?
Non,
j'avais
pas
vu, mais Jean avait été choqué parce que la salle rigolait quand ça parlait de fellation, de trucs comme ça.
Ah là là.
Alors moi j'avais beaucoup aimé aussi, hein, j'avais mis un 4 sur 5 sur ce film déroutant. The Lobster, alors comment dire, nous dit Manu, surréaliste, déroutant, drôle, noir, cruel. Sûrement très inventif, un excellent casting, une histoire hyper originale sur la société de contrôle, mais quelque peu irritant et moralisant. Ou alors j'ai rien compris. 2 sur 5 pour The Lobster.
Après, je peux comprendre que ça déroute, hein, complètement.
Ah non, mais c'est dans le contraste, moi je dis Manu, tu vois, parce que tu sors de Belle et Sébastien et tu vas voir The Lobster, forcément, à un moment. Et en plus, tu t'es tapé un Lelouch entre temps. Oui. Parce que Lelouch, c'est peut-être Lelouch qui fait déborder le vase d'ailleurs. Hein.
Oh, voilà! Là, c'est drôle.
Allez,
mon cerveau va imploser.
Après, non, là, d'abord la chronique, ou alors je sais pas, si, oui. Après la pub, la chronique. Allez, après la pub, la chronique.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
3 ans de prison et 9000 euros d'amende. Ça vous tente? C'est ce que vous encourez si vous conduisez sous l'emprise d'alcool et de drogue. En 2014, en Tarn-et-Garonne, 20% des accidents mortels sont liés directement à la consommation de produits stupéfiants et 37,5% liés à l'alcool. En plus des morts, il y a la souffrance des blessés et de leurs proches. Tout ça pour un délire. Et si vous étiez le prochain? En 2015, bannissez la drogue et l'alcool au volant. Parce que conduire ne peut pas rimer avec délire. Sécurité routière, tous responsables.
Le jeudi 17 décembre, la ville de Montauban vous invite à célébrer la 10e édition de la course de Noël. Au programme, deux parcours sont proposés. Les foulées de Noël, course de 3 km, ouverte aux enfants accompagnés de leurs parents, et la course de Noël de 6 km, ouverte sur inscription uniquement. Pour relever ce challenge, il est vivement recommandé de venir déguisé, bonnet rouge de Père Noël offert par la ville. La 10e édition de la course de Noël, c'est jeudi 17 décembre à 19h30. Bulletin d'inscription téléchargeable sur montauban.com. Renseignements au 05 63 91 78 22.
Du 1er au 31 décembre, les vitrines de Noël de la Fédération départementale des associations de commerçants du 82 revient. Gagnez une croisière pour deux personnes, 30 séjours logis, 75 paniers gourmands et de nombreux autres lots. Jouez chez vos commerçants de Nègrepelisse, Saint-Étienne de Tulmont, Beaumont et Lavitte de Lomagne, Castel, Caussade, Molière, Saint-Nicolas-de-la-Grave, Cazes, Quélus, Lozerte, Saint-Antonin, Montpezat de Quercy, La Française, les commerçants des marchés et le territoire des deux rives. Bonne fête avec les vitrines de Noël de la FDAC 82. Jeux sans obligation d'achat valable chez les commerçants FDAC participants.
CFM.
CFM.
En direct du Faubourg La Capelle. 101.2.
L'esprit rock.
Bonjour. Allez, un peu de patience dans quelques instants. Un reportage sur la première séance de 10h ce matin au Cap Cinéma Multiplex de Montauban par Émeric et Jean. Il y aura donc aussi la critique de Jean qui vaut pour la critique de Jean.
Oui, évidemment.
Hein, non, mais avec qui on n'est pas forcément tout le temps d'accord. C'est ça qui est l'intérêt de cette émission. Hein, on est bien d'accord. Je dis ça avant même qu'il ait dit quoi que ce soit.
Mais tu es adorable. Nos avis divergent et divergent, c'est énorme.
Merci.
Voilà. Oui. Eh ben, débrouille-toi pour faire la chronique après ça.
Eh bien. Merci pour le lancement déjà.
Oui.
Alors vous vous souvenez la semaine dernière, comme j'étais feignant que j'étais pas allé au cinéma, je vous ai fait une petite chronique des 6 premiers mois de l'année. Donc là on va finir avec les 6 derniers mois. Donc on reprend, si vous avez bien suivi, au mois de juillet.
Juillet.
Donc en juillet, le CIO décidait que les Jeux Olympiques d'hiver en 2022 auraient lieu à Pékin, qui est bien connu pour ses montagnes enneigées. Enfin, si d'ici là il reste de la neige. Preuve que tout le monde marche sur la tête, le cinéma n'était pas en reste, puisque les Mignons faisaient n'importe quoi, comme d'habitude, Terminator détruisait tout sur son passage, comme d'habitude, et Ant-Man passait son temps à chevaucher des fourmis. Heureusement, un vieil homme se décidait à nous raconter l'histoire d'un petit garçon qui voulait qu'on lui dessine un mouton, et ça, pour le coup, c'était vraiment reposant. Un petit peu plus tard, pendant que les plages se remplissaient et que les métropoles se vidaient, les salles obscures étaient désertes. Dommage, car il y avait de quoi faire avec Mission Impossible, la Palme d'Or canoise d'Ipan, et surtout, le meilleur film d'action sorti un 19 août avec au moins un acteur barbu. Oui, les critères sont stricts. Mais il a été sélectionné par notre spécialiste Rémi. Il s'agit d'Antigang. En septembre...
Ah oui, si, je l'ai vu, c'est vrai.
Bah oui, quand même.
C'est très bien. Oui, oui.
En septembre, on apprenait que rouler avec une Volkswagen, c'est mal. Sauf si on est pour le réchauffement climatique. On apprenait aussi que Dieu habitait Bruxelles et qu'il ressemblait comme deux gouttes d'eau à Benoît Poelvoorde. Preuve qu'on peut encore parler de Dieu et se marrer. Parce que la suite est un peu moins réjouissante, malheureusement. Déjà en octobre, la Turquie, la Russie et l'Égypte étaient frappées. Comme il y avait trop de nouvelles à la télé, on préférait repasser par la case cinéma, même si Jean passait une soirée de merde en allant voir les nouvelles aventures d'Aladin. Ça, c'était la petite note drôle avant la fin.
Merci beaucoup.
Et puis...
Depuis, il a demandé Kev Adams en ami sur Facebook. Hein.
Oui. Pas en ami, en mariage, d'après ce qu'on raconte. Et puis... Il y a eu ce foutu 13 novembre. Comme on a la chance d'être vivant, on va quand même en dire un mot. Le cinéma fait partie des plaisirs de la vie. Tu vas voir un film, bon ou mauvais, avec tes amis, ta femme, ton mec, ton chien, qui tu veux. Et après, tu vas boire un verre, peut-être en terrasse. Et tu refais le film ou le monde. Et rien ne pourra empêcher ces minutes de bonheur, qui donnent du goût et du relief à nos vies, car rien n'est plus fort que la vie. Alors, faites-moi plaisir, continuez à remplir les salles de cinéma, continuez à profiter de 12 soirées en terrasse. Surtout que statistiquement, c'est sans risque et moins dangereux de conduire sa bagnole. C'est ainsi que s'achève cette chronique, vu qu'en décembre, honte sur moi, je ne suis pas allé au cinéma, sinon je me serais pas embêté à écrire une chronique.
Ah, bravo.
Merci.
Ouais. C'est ça. Ça procrastine, hein, à cette entrée d'hiver, moi, je trouve.
Un peu.
Ça procrastine grave. Heureusement, ce matin, il y en a qui se sont levés, enfin tôt, j'allais dire tôt. Non, pas trop tôt aussi. Et pareil que... Paris qu'à Toulouse, certains s'étaient levés très tôt, dès 8h du matin, ils faisaient la queue devant les gros complexes de cinéma toulousains. À Montauban, on est à la campagne, le temps que le coq se réveille, qu'il chante au fond de la cour, c'était un peu plus long. C'est à 10h du mat que se sont pointés Jean et Emeric au Cap Cinéma Multiplex dans la grande et vaste plaine de la zone nord à Montauban.
Exactement.
C'est ça. On peut rien te cacher, hein. C'est un truc de fou. Ouais, on s'est rendu, Jean et moi-même, à la séance de 10h et 1 minute.
Et il fallait surtout pas arriver à la bourre, hein, parce que c'est 10h et 1 minute.
Voilà, très précis, c'était marqué dessus, hein. On est allé voir Star Wars 7, Le Réveil de la Force. Et ce nouveau Star Wars fait depuis quelques mois la polémique, depuis que la franchise a été rachetée par Disney.
Sous prétexte qu'il y aurait Mickey et Dingo dans le film, déguisés en Jedi, et voilà, je t'en passe.
Vas-y, ça ou pas?
Non, heureusement.
Oui, rassurez-vous.
On l'avait dit, on spoilait pas.
Ça commence déjà.
Et à la fin.
Non, on peut le dire, ça va. Bon. Et ouais, enfin, on est parti avec des a priori par rapport au film, quand même. Et on voulait voir si on était les seuls ou non. Et on voulait également vérifier si la nouvelle génération était sensible à la guerre des étoiles. Et en se faufilant dans la file d'attente, on a pu constater que Star Wars, c'est toujours aussi populaire auprès du public.
Moi je suis plus venu pour les effets spéciaux et tout. Pour ma part, j'espère retrouver l'esprit des trois premiers sortis dans les années 70 et 80. Ce sont des classiques du cinéma, j'espère retrouver ça dans celui-ci. Avant d'aller voir le film, je me suis refait toutes les trilogies plus toute la série, les séries qu'ils ont sorties entre temps. Donc oui, j'ai tout refait là dans les deux dernières semaines.
Tu peux nous faire une imitation de Chewbacca ou pas du tout?
Non.
Eh ben, de retrouver l'univers, on va dire, de la première trilogie créée par George Lucas.
En fait, on se retrouve tous dans Star Wars.
Je voulais tous les voir avant que tout le monde voit ce film et que ça remplisse toutes les salles. On aime bien les films d'action et tout ça. Ouais. Voilà. Le sabre laser, des robots.
Une logique avec les autres films. Parce que s'il n'y a pas de logique, c'est un peu triste. Anakin.
Skywalker. Yoga un peu.
Yoga ou Yoda?
Yoda. Que la force soit avec toi. Je suis ton père.
Je suis ton père. Et
non, non.
La force est avec nous.
J'aime pas Padawan.
Que la force soit avec vous, je suis ton père. Les répliques de la guerre des étoiles font encore mouche et touchent encore toutes les générations. Anakin, Luke Skywalker, Yoda, Dark Vador sont des personnages universels, ancrés dans la mémoire collective de tout cinéphile qui se respecte, n'est-ce pas?
N'est-ce pas?
Bon. Alors moi, perso, il y a une réplique qui n'a pas été citée dans le reportage que j'adore. Je vous la cite. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Alors, question. Qui sort cette réplique et dans quel film?
Je crois que c'est Yoda à Anakin. Et je suis même pas sûr.
Alors, Yoda, tu y es. Et je crois que tu te gourdes Skywalker.
Bah, c'est Luke.
Bah ouais, facile, hein. Passe-moi et passe-moi ton ballon. Qu'est-ce qui reste? Luke Skywalker.
Moi, j'aime bien la réplique. Non!
Voilà.
Merci, Rémi.
Ma préférée.
Il faudra qu'il dépose un copyright. Ouais. Et ouais, et dans quel film?
Star Wars 5, l'Empire contre-attaque. Je pourrais pas te donner l'année par contre.
80.
Voilà.
Allez, 80. On va dire 81, vous vérifierez sur Wikipédia. D'ailleurs, la réplique, là, enfin, moi je l'adore, hein, faudrait presque l'enseigner dans les écoles, celle-là. Et puis, c'est un peu plus simple à apprendre que Nietzsche, hein, ça se résume en deux lignes. Vous avez en une phrase, vous avez le résumé de par-delà le bien et le mal, hein, le côté obscur, la force.
Et on, vous, et on vous économise 10 euros.
Et oui, vous n'êtes pas obligé de prendre l'intégrale de Nietzsche ou de Freud. Donc c'est cool. Bon, revenons au Jedi, du coup. Alors, après avoir interrogé les spectateurs à la file d'attente, on a regardé le film. Et il dure 2h16 très exactement.
Ouais,
et
2h16.
Moi perso, j'ai passé un excellent moment.
Ouais, moi aussi. Ouais. Franchement, ouais.
Franchement, ça vaut le coup. Moi, j'avais l'impression d'avoir 10 ans, j'étais comme un gosse.
T'étais le seul.
Ah ouais? Ah bon. Bon, ben, je dois être le seul gosse, alors. Enfin, je sais pas, on s'est pas ennuyé une seconde, hein. Franchement, c'était vraiment, enfin, les scènes sont super, les combats, bien.
Oui.
Les effets spéciaux, il y en a, mais il y en a pas trop, c'est pas
mal. Ça va encore.
Ouais. Donc, du coup, moi, j'aime bien, quoi. Enfin, voilà. Et Star Wars 7 ravit à la fois les nostalgiques et les novices.
Ça brûle de déplacement, c'est en regretterait. C'est ce qui fait le joint, je veux dire, Harrison Ford. Enfin, les acteurs anciens, ils amènent le nouveau, et c'est ça qui est important. S'il n'y avait pas ça, je pense que ça n'aurait pas trop de sens. Simplement, peut-être au niveau des effets spéciaux, je trouve que c'est pas, ils sont un peu moins bons, je dirais, que l'origine. Et que Harrison Ford rentre dedans, on est reparti, quoi. C'est eux qui tiennent le film, quoi. C'est des dinosaures, quoi, comme moi.
Après la réalisation, j'ai trouvé que c'était époustouflant, quand même. Hein. C'est de la bonne trempe, quoi. Hein. La même trempe.
J'avais un peu peur de la licence, ce que Disney allait en faire, je suis pas trop déçu. Très sympa, Flynn, on est à la limite du comic relief, mais enfin bon, sans exagérer, ils tiennent en route. Par contre, la fille, elle est exceptionnelle, très bonne actrice, je l'ai trouvée parfaite dans le rôle, quoi. Disons que ça démarre bien pour un premier épisode d'une nouvelle trilogie, c'est pas trop mal, quoi. Si quelqu'un était capable de le faire et de le faire proprement, c'était lui, quoi. Il n'y en avait pas 150 et je trouve que ouais, ils sont pas trompés, quoi.
Non, c'est vraiment bien accessible en plus pour les jeunes et pour les néophytes et je veux dire les masterclass, mais les habitués, les vraiment fans, c'est vraiment vraiment bien.
On ratera l'école encore avec les enfants pour venir le voir, effectivement, ouais.
Star Wars 7 est à l'affiche au Cap Cinéma Multiplex de Montauban. C'est le film événement de cette fin d'année. Et Jean, il va nous en parler encore mieux que moi.
Il y a une petite critique, oui. Oui. Alors, tu le disais tout à l'heure, après le rachat de Lucasfilm par Disney, tout le monde flippait grave ta mère à l'idée que Mickey et Dingo apparaissent à l'écran. Puis, quand on nous a annoncé que ce serait J.J. Abrams qui prendrait la relève, j'étais vraiment ravi que George Lucas se casse avec son chèque. Vraiment. Et aujourd'hui, dans une salle modestement remplie, le film commence. Et 2h16 d'aventure plus tard, le résultat final surprend et laisse perplexe. Certes, J.J. Abrams apporte une vague de fraîcheur en termes de réalisation, John Williams réinvente vraiment les anciens thèmes musicaux à la perfection, mais les multiples révélations et les quelques facilités font que l'on reste sur sa fin. Ça ravira les fans hardcore qui ont grandi avec les films depuis 40 ans maintenant, mais pour les autres, va peut-être falloir attendre Star Wars 8 qui sort le 24 mai en 2007... Star Wars 9 qui n'a pas vraiment de date de sortie mais qui sera réalisé par le type qui a pondu Jurassic World, et pour nous faire patienter entre ces deux prochains volets, il y aura deux spin-offs, donc des films qui sont centrés sur un moment clé de l'univers Star Wars ou sur un personnage en particulier, et le premier s'intitulera Rogue One et il sortira le 14 décembre 2016. Donc voilà.
D'accord.
Voilà, donc un film par an, on va bouffer du Star Wars jusqu'en 2020, moi ça me va.
Moi, ce qui me fait rire, c'est les produits dérivés, quoi. Il y a vraiment.
Ah, mais
tout.
Ils s'arrêtent pas.
J'ai vu qu'il y a un nouveau robot, genre R2D2, mais un plus rond.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et c'est un peu la tête de gondole d'une marque d'orange. t'as du dentifrice, t'as vraiment
non
tout,
mais ils arrêtent pas. Mais ce robot, il a été créé pour vendre des jouets comme R2D2 à
l'époque. Il y a un truc que j'ai pas compris dans ce que tu dis. C'est George Lucas qui réalise
non.
Ou c'est par George Lucas qui réalise.
Vas-y, assis-toi, je te raconte l'histoire.
George Lucas a écrit l'histoire.
Laisse-moi terminer.
George Lucas a écrit l'histoire, oui ou non?
Non, merde. Voilà. Non, il l'a pas écrit.
En plus, tu vas rester poli. Hein.
Non, alors, Disney rachète Lucasfilm, qui appartenait à George Lucas.
Oui.
D'accord. George Lucas repart avec un chèque de 5 milliards.
Ouais.
Donc, il laisse Lucasfilm. Lucasfilm, c'est Star Wars et Indiana Jones.
D'accord.
Donc, petit reboot d'Indiana Jones en vue. On sait pas, on verra. Et Disney annonce du coup une nouvelle trilogie en construction avec deux spin-offs. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des films centrés, voilà. Et il fallait quand même un réalisateur
non seulement un réalisateur, mais il faut des scénaristes avant tout.
Le scénariste, ils sont pas cassés la tête pour aller les chercher. Ils ont repris Lawrence Kasdan qui avait écrit l'épisode 5, donc
Empire contre-attaque,
c'est ça. Voilà.
Alors je comprends rien. Moi, je croyais que George Lucas, à l'époque, quand il était jeune, avait écrit l'ensemble.
Il avait écrit 6 films.
Il
avait écrit 6 films et ses meilleurs potes, qui étaient Spielberg, De Palma et Scorsese, à la lecture du coup du premier épisode de Star Wars, donc l'épisode 4, faut suivre les gars.
Qui est en fait le 1,
le 1 pour les plus vieux. Et Spielberg lui a dit, mais ça marchera pas ton truc, va falloir que tu changes de titre, de personnage, etc. Et comme Lucas c'est pas un scénariste, et du coup il a tout rechangé, il a écrit 6 films, bam. Et donc du coup Disney a annoncé une nouvelle trilogie, il a fallu trouver un réalisateur, donc il y a eu des grands noms comme David Fincher, Quentin Tarantino, Brad Bird qui avait réalisé Les Indestructibles et Mission Impossible 4 pour le réaliser. Finalement, c'est sur J.J. Abrams que c'est tombé, et c'est un excellent choix quand on voit ce qu'il a fait à la saga Star Trek. Moi perso, je suis ravi.
Et Lucas, il l'a vu le film, qu'est-ce qu'il dit?
Alors Lucas, il avait refusé de voir tous les trailers qui ont été faits, donc histoire de garder la surprise. Il y a eu des projections qui l'ont faite. Spielberg, il l'a vu une dizaine de fois et il a bien aimé. Et George Lucas l'a vu et il a dit « Mouais ».
Mouais.
Mouais.
C'est pas mal, mouais.
Mouais. Mais en même temps, quand t'as un chèque de 5 milliards dans les dents...
Tu peux pas dire non.
Tu peux pas dire non, je pense pas. Par contre, voilà.
5 milliards. 10 ans maxi, quoi.
Ça,
5 milliards.
Ça va vite, hein. Je t'appelle George Lucas, quand même, 5 milliards.
Ouais, mais ils lui ont racheté tout ce qu'il possédait, quoi. C'est ça le truc.
Ce qu'il a pas précisé, mais du coup, parce que tu posais la question tout à l'heure, c'est que, en fait, J.J. Abrams, c'est le réalisateur, le scénariste et le producteur du film.
D'accord, le mec, il fait tout.
Le mec, il fait tout.
C'est exact.
Et parce qu'il s'investit vachement.
Donc c'est le Dark Vador du cinéma.
Ou plutôt le Kylo Ren, puisque Kylo Ren est le bad guy du film, quoi. Avec son sabre laser.
Je crois que c'est lui qui fait la cantine aussi. C'est lui qui distribue la bouffe à midi. Ouais. Il est très, très, très investi.
Il y avait du monde. Combien il y avait de personnes à cette représentation à 10 heures?
On était dans la salle 1. Alors, pour les gens qui savent ce que c'est que la salle 1, c'est la salle la plus grande du Cap Cinéma. Et il y avait que la partie haute qui était remplie. Sinon, il y avait deux spectateurs, répartis.
Donc, il y avait quand même,
il y avait du peuple. Il y avait du peuple.
300 personnes, hein?
Non, la salle fait 4.
La salle fait 350 ou 400. Donc,
il y avait
200 personnes.
Entre 150 et 200 personnes en max,
Mais c'est lié au matin. Après, l'après-midi, je pense que déjà, on est sorti, il y avait beaucoup plus de filles déjà pour la séance de 13h.
De filles, toi, t'es allé voir les filles.
De films. Des filles?
De filles.
Oui.
La suite, c'est vous au téléphone au 05 63 930 020 pour le quiz, juste après les infos.
Info. CFM, les infos.
Bonsoir à tous.